Radio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants de petites et moyennes entreprises, co-animée par Alain Marty et Pauline Riglet, en partenariat avec GFIP et JPA International.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de PME Radio. Vous êtes plus de 28 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Merci beaucoup d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et on vous attend, hein, bien sûr, pour lire vos réactions sur nos réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer l'émission du jour, Guillaume Dosinel, dirigeant associé de GFIP. Bonjour Guillaume.
Bonjour Pauline.
Ainsi que Jean-Philippe Boringer, président de JPA Entreprises. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Pauline.
Alors aujourd'hui, nous recevons Laurent Grand-Guillaume, directeur général de Freeland. Bonjour Laurent.
Bonjour Pauline.
Alors Laurent, vous avez une maîtrise de sciences économiques options monnaie à l'université de Bourgogne ainsi qu'un master de management organisation et ressources humaines au CELSA. Vous commencez votre carrière pro comme commercial dans le groupe BNP Paribas avant de rejoindre le secteur public sur les sujets RH, finance, IT ou encore la transformation des services. Mais votre parcours, c'est aussi et surtout près de 10 ans en tant qu'élu local, vice-président aux finances de la métropole du Grand Dijon, adjoint au maire ou encore médiateur auprès du Premier ministre sur des sujets liés au monde du travail. Un mot quand même sur ces 10 années de politique. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience ?
Beaucoup de choses. Alors d'abord, comme vous l'avez bien compris, la gestion des conflits,
ouais.
Parce que j'en ai géré quelques-uns qui reviennent souvent dans l'actualité d'ailleurs, avec notamment les taxis, les VTC. Mmh. Et puis surtout le dialogue avec différentes administrations centrales, différents partenaires pour gérer des sujets complexes comme j'ai pu en gérer, notamment dans le cadre du chantier de simplification pour les entreprises, parce que j'avais beaucoup travaillé à l'époque avec Guillaume Poitrinal, François Zolder, Christophe Demestre et bien d'autres, pour mettre en œuvre des mesures de simplification qui parfois étaient bloquées par des entreprises, pas seulement par des administrations. On percutait des business models.
Je crois que vous êtes justement un professionnel de toutes ces interactions. Alors, je continue. En 2017, vous décidez finalement de retrouver le monde entrepreneurial en rejoignant la PME ITG spécialisée dans le portage salarial devenue Freeland aujourd'hui. Alors, avant de nous parler de Freeland, on revient quand même sur ce virage professionnel. Pourquoi ce retour dans le privé ?
D'abord, moi, j'ai toujours été un pragmatique et j'ai toujours été attiré par les projets impact. Et j'avais fait le tour de la question dans le champ politique en ayant porté différents projets. Et j'avais besoin de retrouver l'entreprise là où finalement où il y a le plus d'impact. Parce que quand on est entrepreneur, quand on porte ce type de projet, on voit directement et tous les jours l'impact de ce que nous produisons. Voilà. Et donc j'ai pris cette décision, effectivement. Donc j'ai quitté tous mes engagements à l'époque pour rejoindre une PME. Et en me disant que j'allais accompagner concrètement la croissance d'une PME pour qu'elle devienne une belle ETI.
Alors, expliquez-nous, Freeland, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous proposez finalement ? Qu'on comprenne bien.
D'abord, au départ, avant Freeland, donc, comme vous l'avez dit, il y a eu ITG. ITG, c'était le leader du portage salarial, et ça l'est toujours d'ailleurs en France. C'est-à-dire accompagner des indépendants pour la facturation de leur activité et pour leur apporter un statut pour transformer les honoraires en salaire, en résumé. Et donc, ITG, c'était vraiment le monde du B2C, accompagner les indépendants qui cherchent un statut pour développer leur activité. Et au moment de la crise sanitaire, ces indépendants ont eu du mal à trouver des missions, que ce soit dans le champ de l'IT d'ailleurs, parce que tout le monde n'avait pas la capacité à rebondir vite, dans les domaines des RH, du management. Et on s'est dit, pourquoi ne pas développer également des activités pour aller chercher des missions pour ces indépendants ? Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a pris un virage, c'est-à-dire qu'on a consolidé le marché du portage salarial en faisant différentes acquisitions, c'est-à-dire un peu plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires par an en portage salarial, et on a commencé à faire des acquisitions dans le champ du staffing des indépendants, et spécifiquement dans le champ de l'IT, sur le cloud, la data, les ERP, les CRM, l'IA, la cybersécurité, et donc en allant chercher des missions pour ces indépendants.
D'accord.
Et donc on a finalement complété ce modèle entre la gestion des indépendants et la gestion des talents et des compétences.
Alors, je suis sûre que Guillaume Dosinel a plein de questions sur ces sujets-là.
Laurent, Freeland a obtenu la médaille Silver Ecovadis en 2025, attestant de son engagement RSE. Quelles actions concrètes avez-vous mises en place pour atteindre ce niveau de performance ?
Alors, c'est un chantier que l'on a pris à bras-le-corps. Alors, d'abord, par rapport à notre raison d'être, à nos engagements. Et puis ensuite, comme beaucoup d'entreprises, on est de plus en plus challengé sur ces sujets par nos propres clients. Et donc, c'est un sujet central. Donc, qu'est-ce qu'on a fait concrètement ? D'abord, on s'est investi dans le champ de l'inclusion, par le sport, en soutenant des sportifs et des athlètes qui ont participé d'ailleurs aux Jeux Paralympiques, sur une durée longue, et pas seulement sur one shot, un coup, on vous donne une aide, on les a accompagnés sur 3 ans. Et on a accompagné également, de manière massive, des personnes qui se sont retrouvées privées d'emploi, des cadres, donc dans différentes régions, et qui ont souhaité rebondir par la recherche d'activité, et nous avons formé ces personnes pour un retour d'activité, et plus de 75% ont retrouvé une activité par des programmes innovants. Donc c'était vraiment nos deux gros engagements forts, et on continue aujourd'hui, et puis on va aussi travailler maintenant sur le Green IT, hein, qui est un sujet qui aussi se développe de plus en plus. Donc on commence à se pencher aussi sur ce sujet de manière forte.
Freeland est présent en France et à l'international, notamment en Europe, au Brésil, en Suisse, à Singapour, je crois.
Oui.
Quels sont les défis spécifiques que vous avez rencontrés lors de vos expansions, de votre expansion sur ces marchés ?
Il y a des vrais, les groupes internationaux recherchent des talents qui sont en capacité d'intervenir partout dans le monde. Et donc, les défis qu'on peut rencontrer, hein, c'est dès qu'on rentre sur des sujets très complexes, j'en ai un en tête en ce moment au Brésil, où on va accompagner un très grand groupe sur un projet massif. Donc ça concerne potentiellement une centaine d'intervenants sur site. Et donc là, on va rentrer dans la complexité du droit au Brésil, de la complexité, bien sûr, de toutes les règles bien sûr, qu'il faut respecter, qu'on connaît parfaitement, puisqu'on a des acteurs locaux qui nous représentent. Et donc c'est un dialogue permanent avec tous ces acteurs, d'apporter du sur-mesure aussi dans les différents pays, avec un management parfois interculturel, puisqu'il y a des indépendants qui peuvent intervenir de différents pays aussi sur un même projet. Donc c'est vraiment très intéressant déjà, challengeant, et donc on va continuer de développer cela le plus possible, et sans doute par de la croissance externe aussi, hors de nos frontières.
Comment voyez-vous l'évolution du travail indépendant dans les prochaines années, et quel rôle Freeland souhaite-t-elle y jouer ?
D'abord, Freeland a vocation à être leader dans ce domaine, donc on va construire toutes les bases pour réussir. En étant capable à la fois d'apporter aux entreprises toutes les solutions pour qu'elles trouvent les talents, quel que soit le statut. Quand je dis quel que soit le statut, c'est autant quelqu'un qui est en société unipersonnelle, un auto-entrepreneur, une personne qui est en portage, mais ça peut être aussi du recrutement. Parce qu'après tout, on peut nous dire, cette personne, je veux peut-être même la recruter. Tant mieux, on est là aussi pour vous accompagner. Donc nous, on a plus de 500 000 profils en base, hein, dans notre base. Donc c'est quand même assez important, avec beaucoup de profils dans l'IT, dans l'engineering et dans tout ce qui est consulting, donc conseil pour les entreprises. Donc l'idée, c'est vraiment de décupler cette action et d'être en capacité aussi d'apporter tout le conseil nécessaire aux entreprises pour gérer toute cette diversité de statuts, puisque finalement la ressource des entreprises maintenant, elle est très variée. Elle est autant la ressource que nous avons connue jusqu'à présent des salariés et qui restera massive et majoritaire en France de par notre modèle, mais on voit clairement les entreprises faire appel à de plus en plus de compétences diversifiées parce que les personnes choisissent aussi des statuts différents. Et donc, si l'entreprise veut faire appel à elle, il va falloir qu'elle s'adapte. Et notamment les ressources humaines, puisque les ressources humaines ont été vraiment habituées à travailler d'abord avec des salariés. Maintenant, les ressources humaines doivent aussi épouser ce champ très large de la diversité des statuts. Donc, on est là pour les accompagner. Et on le fait de plus en plus avec des référencements très importants qu'on a eus récemment sur des grands groupes, des ETI aussi, dans tous ces champs, même industriels d'ailleurs, qui se développent, comme on le sait, avec des difficultés parfois dans le champ industriel français, mais avec de plus en plus d'indépendants qui travaillent aussi dans ces domaines.
Jean-Philippe Bouranger, vous avez aussi des questions pour notre invité.
Oui, quand je vois la taille du groupe, le nombre de collaborateurs et la base de données, comment vous mesurez la performance par métier, par zone géographique, qu'elle soit financière ou extra-financière ?
D'abord, nous, on a bien sûr des indicateurs clés pour l'ensemble du groupe, parce que une entreprise, ce n'est pas qu'une somme, fort heureusement, d'individualité ou de business unit, mais c'est un sens collectif que nous portons à travers aussi la mesure de la performance sur les indicateurs collectifs qui sont partagés avec tous les managers du groupe. Et après, par BU et par métier, on a des indicateurs spécifiques, puisque chaque métier a sa spécificité, bien évidemment. Et donc, on va mesurer cette performance sur le business, hein, puisqu'on est centré 100% sur le business. Et des indicateurs qualitatifs, parce que ça fait partie aussi, bien sûr, du business, c'est central, c'est la qualité qu'on apporte aux clients. Avec bien sûr tout ce que l'on connaît, le NPS, le CSAT, des enquêtes qualitatives auprès des clients et des indépendants, très important, parce que c'est, je crois, les éléments qualitatifs qui permettent aussi de démontrer la robustesse de ce que l'on propose. Donc très très important, au-delà des indicateurs à un instant T qui sont mesurés, que l'on connaît bien sur le business d'une entreprise.
Après, alors n'y voyez pas une question personnelle, mais comment vous choisissez votre commissaire aux comptes, par exemple? Et puis, tout à l'heure, j'ai entendu que dans la simplification, un des éléments qui bloquait à cette simplification, c'était les entreprises. Donc, vous pouvez m'en dire un peu plus là-dessus?
Oui, alors d'abord, commissaire aux comptes, bien évidemment, comme tous les commissaires aux comptes, ils sont excellents et donc ils nous accompagnent dans la relation, voilà, dans une relation durable. Donc on n'a pas de. Ils nous apportent bien sûr leur expertise et c'est important, essentiel, notamment quand on a un groupe comme le nôtre qui est consolidé, qui est beaucoup évolué très vite. Donc très, très important, essentiel, et la relation humaine, bien évidemment, avec ces commissaires aux comptes. Par ailleurs, donc, sur le sujet que vous abordez de simplification juridique, oui, je me suis rendu compte, quand j'étais aux responsabilités dans le champ public, qu'il existe des normes, en fait, finalement, qui ont évolué au fil du temps et qui protègent un secteur économique. Est-ce que c'est mal? Les Allemands, par exemple, ont très bien compris, depuis longtemps, que les normes pouvaient protéger leur industrie, qu'elles pouvaient même les aider à les faire grandir. Donc, c'est finalement, la norme n'est pas mauvaise en soi. Ça dépend comment elle est transcrite et comment elle est utilisée. Donc c'est important d'avoir ce recul par rapport aux normes, parce qu'autrement on peut bien sûr condamner toutes les normes. Mais,
vous parlez des normes techniques et pas administratives.
Oui, des normes techniques, oui, tout à fait. Après, dans les normes administratives, la paperasse, la bureaucratie, bon là, je pense qu'il y a un champ de travail illimité.
Illimité.
Là, en France, donc chacun peut se lancer dans ce grand défi.
Merci beaucoup, Laurent Grand-Guillaume, d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Merci à vous aussi, Guillaume et Jean-Philippe. C'est déjà la fin de ce numéro de PME Radio. Merci de nous avoir suivis. Puis, vous pouvez bien sûr retrouver nos podcasts sur notre site et vous suivez notre actualité sur notre compte LinkedIn. Et puis, on se retrouve jeudi prochain pour accueillir un nouvel invité. Merci encore.
L'invité de la semaine de PME Radio, une production B2B Radio en partenariat avec GFIP et JPA International.